Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Couturières, couturiers, bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Dans Blabla Couture, j'interviewe les créatrices et créateurs de contenu qui parlent de couture pour comprendre leurs inspirations, leurs stratégies et ce qui les pousse à créer de nouveaux projets autour de la couture. Dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir Gaëlle, alias Gaëlle Ensue, sur les réseaux sociaux. Gaëlle est autrice de livres de couture, créatrice de patrons, et vous avez certainement dû déjà croiser son travail puisque c'est elle qui dessine les petites planches de BD qui caricaturent nos lubies en couture, nos habitudes, nos défauts. Bref, vous connaissez déjà en partie le travail de Gaëlle. Je vous propose de découvrir plein d'autres choses. Hello Gaëlle.
Hello.
Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore ?
Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, c'est Gaëlle, donc connue sous les réseaux sous le nom de Gaëlle Ensue. Je suis couturière, donc j'ai fait mes études dans la couture et je me suis lancée à mon compte il y a, on va dire, à peu près 4 ans pour donner donc des cours de couture et ça a bifurqué où j'ai créé des patrons de couture par la suite. Donc, j'ai ma marque de patrons aussi. Et à côté de ça, parce que bien sûr, j'ai plusieurs activités, je fais des illustrations humoristiques autour de la couture.
Moi d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connue, parce qu'on voyait tes dessins sur tous les groupes de couture. Je voyais il y avait Instagram qui me proposait aussi régulièrement tes illustrations dans mon feed. On te voit dans Idées à coudre, ou Idées à faire plutôt.
Oui, Idées à faire.
Tous les deux mois, pardon.
Ouais, tous les deux mois, oui. C'est ça.
Et comment on arrive à associer la bande dessinée et la couture ? À quel moment ça tilte chez toi, cette envie de mélanger tes deux passions ?
Ben en fait, c'est un peu par hasard. Je venais juste de débarquer sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas du tout mon univers. J'avais rien à poster. J'avais pas fait de couture cette semaine-là. Et ça faisait longtemps. Je m'étais acheté une tablette justement pour me remettre un peu au dessin. Et j'ai eu un souci avec ma canette. Je me suis dit, tiens, ça serait marrant de raconter une histoire autour de ça. Et ça a débuté comme ça. J'ai posté ça et surprise, ça a bien plu dès le départ, en fait. Et c'est rapidement devenu le rendez-vous du jeudi, parce que j'ai posté ça un jeudi. La semaine suivante, pareil, j'avais rien cousu, j'ai refait une BD. Et c'est arrivé comme ça, le rendez-vous du jeudi avec l'illustration.
Est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est quelque chose qui a permis de te différencier des autres, de te faire connaître d'une autre façon ?
Oui, je pense. Oui, c'est ça qui m'a aidé, ouais, vraiment. Je pense à me démarquer dès le départ, qui a fait grandir ma communauté avec ça. Et c'est comme ça aussi que, qu'on me reconnaît par rapport à ça. Au départ, moi, je ne me montrais pas. Donc, tu vois, on reconnaît plus mon personnage que finalement que moi.
Et c'est vrai que je ne t'ai pas beaucoup vu hein, jusqu'à présent. Là, en faisant des recherches sur toi, je suis allé sur ton site, j'ai vu ta tête. On s'était vu un petit peu avant dans une réunion. Enfin, moi, en tout cas, je t'avais vu parce que moi, je n'avais pas activé la caméra à ce moment-là.
Oui.
Oh, la tête que tu fais, c'était le truc de Pinterest.
Oui, non, j'étais en train de me dire, attends, ça se trouve, on s'est vu en vrai, mais je n'avais même pas capté que tu étais là.
Non, mais parce que je suis resté, oui, vu que je disais rien, je me suis dit, je ne vais même pas mettre la caméra, comme ça, je pourrais faire autre chose en même temps. Et oui, c'est vrai que ton personnage est du coup, ton personnage qui est toi, j'imagine.
Ouais, c'est ça, exactement. Totalement inspiré de ma vie. Et l'autre personnage homme, c'est mon conjoint.
Et il manque le chat.
Le chat apparaît dans quelques histoires, mais pas toutes.
Est-ce que tu veux bien nous dire comment tu as découvert la couture? Quel est le point de départ de cette passion?
Le point de départ, depuis toute petite, de toute façon, j'ai le côté créatif. Ça a toujours été ça. Donc, j'ai toujours vu aussi ma grand-mère coudre, mais c'est pas ça qui m'a forcément donné envie de coudre. C'est vraiment au collège, j'avais une copine qui avait une machine à coudre chez elle. Et les mercredis, on se retrouvait. Et je sais pas, c'est arrivé un jour comme ça, on s'est dit, tiens, si on testait la machine à coudre, elle avait plein de morceaux de tissu, de vieux vêtements. Et on a commencé à customiser des vêtements au collège. Et finalement, ça nous a bien plu ce côté créatif. Et on n'avait pas du tout envie de partir sur le général. Donc, on s'est dit, faut qu'on... On adorait toutes les deux le dessin, toutes les deux la couture. Et puis, bon, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit que dessin, peut-être qu'il y aurait moins d'ouverture que la couture. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire des études dans la couture. C'est un peu, ça a démarré un peu comme ça.
Et du coup, tu as fait quoi comme étude particulièrement? Quelle est ta formation?
J'ai fait un BEP et un bac pro couture floue qui existe. Du coup, ça n'existe plus maintenant. Parce qu'avant, c'était en 4 ans. C'était assez complet. Là, le bac pro actuel couture floue, ça équivaut au BEP que j'ai passé moi il y a 15 ans. Donc, tu vois, au niveau par rapport aux études. Et après, j'ai voulu continuer. Sauf que toutes les écoles sont payantes. Ou alors l'école qui est gratuite est à Paris. Mais bon, du coup, il faut payer le logement.
Et ça du coup, c'est payant quand même.
C'est ça. Donc, après, ce que moi, j'avais pensé, je m'étais dit, bon, je vais à Paris, tu vois, je prends un petit job à côté, et puis, c'est pas grave, tant pis, pendant 3 ans, j'habite dans un 9 mètres carrés. Mais là, en fait, ils m'ont dit, le truc, c'est qu'il y a 45 heures de cours de couture, plus quasiment autant pour le travail à la maison. Donc, ils m'ont dit, ce ne sera pas possible que vous cumuliez en plus un autre boulot. Ou alors, vous n'allez pas dormir, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Donc, du coup, c'était dommage parce que mon dossier a été accepté partout. Mais par manque d'argent, c'est dommage qu'ils ne fassent pas d'ailleurs un système de bourse, tu vois, ici en France.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi tu n'as pas eu de bourse ou pourquoi tu n'étais pas boursier? Ça n'existait pas, quoi.
En fait, mes parents gagnaient trop. Pas assez. c'était dans la tranche tu gagnes pas assez pour toucher quelque chose et inversement. Donc du coup mes parents pouvaient pas. Alors après il y avait la solution, forcément je pouvais partir sur un crédit, mais j'avoue ça m'emballait pas trop de commencer ma vie sans avoir commencé à travailler, de prendre direct un crédit de 30 000. Donc je me suis dit tant pis, je vais essayer de trouver un autre truc qui me convienne. Donc je suis partie en fac d'art plastique parce que pareil, le côté créatif me plaisait. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas peut-être être prof d'art plastique. Ça me plaisait bien aussi. Et sauf que l'année où je suis arrivée en fac, c'est l'année où ils te disaient, en fait, il fallait maintenant aller jusqu'au master pour passer le CAPES. Mm-hmm. Et là, je me suis dit, ah ouais, 5 ans de fac. Moi, j'étais partie sur 3 ans. Ça passe de 2 secondes, tu rajoutes 2 années de plus. Et surtout que la fac, c'était pas trop mon truc, tu vois. Enfin, quand t'es en bac pro, t'es vachement accompagné, t'es dans des petits groupes.
Alors que la fac, t'es complètement lâché. Ouais. T'es tout seul à faire tes trucs, à t'organiser.
Ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'adorais travailler en équipe. Et là, tu passes de travailler en équipe à tu travailles en solo, tu prends des notes, tu peux même presque pas interagir avec le prof. Donc ouais, ça me plaisait pas trop. Je suis restée 2 ans en fac, j'ai arrêté. Je me suis dit, à chaque fois, tu sais, je fais toujours un petit point. Tu sais, moi, quand ça me plaît plus, je me dis, allez-y, on fait un point, on regarde qu'est-ce qui me plairait. Et je me suis dit, on va rester dans le côté créatif. Et après, j'ai toujours eu ce côté, j'adore transmettre mon savoir-faire. Donc, je me suis dit, tiens, l'animation, c'est vrai que quand j'étais petite, j'aimais bien aller au centre de loisirs et tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas partir dans l'animation. Donc, je me suis lancée, j'ai testé pendant un an, je me suis dit, tiens, ça me plaît bien. Du coup, j'ai passé BAFA, BFD, surveillant de baignade, tout ça. Et j'ai voulu passer mon BPJEPS. Donc, BPJEPS, c'est brevet jeunesse et sport professionnel, donc, qui est reconnu du coup par l'État, parce que le BAFA et le BFD, c'est que des brevets, mais c'est pas reconnu comme un diplôme. Et je me suis dit, j'ai passé ça, sauf que pareil, manque de moyens. En fait, il y a un stage qui me dit, on te prend en alternance. Finalement, je commence mon stage. Ils me disent, non, en fait, on va pas te payer. Et je dis, ouais, et je fais comment du coup pour.
On adore ce genre de déclaration. Allez, viens travailler pour nous, mais tu seras pas payé. Oh, ok.
Mais non, mais c'est pas ça, c'est surtout qu'au pire, c'est qu'au départ, s'ils m'avaient prévenu, moi, j'aurais pas commencé avec eux. Au départ, moi, ils m'ont dit, on te paye. Et tu commences, et deux semaines après, on te dit, finalement, on va pas te payer. Donc, du coup, obligé d'arrêter ma formation en cours. En plus, c'est les BPJEPS, c'est quand même, tu as une sélection avant, c'est pour être choisi, parce qu'il y a que 15 places à chaque fois. Donc, ils trient les personnes. Donc, ça, déjà, pour moi, c'était pas cool. Mais du coup, j'ai pris la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu avoir cette formation. Ouais. Donc, je me suis dit, alors, l'autre solution pour avoir ce diplôme, c'est le passer en VAE. En fait, c'est une validation d'acquis. Donc, tu as certains critères pour valider donc, ce diplôme-là. Donc, il fallait avoir tant d'heures en tant qu'animateur, tant d'heures en direction. Et il faut que tu rédiges un mémoire avec certains critères dans le mémoire. Donc là, il fallait présenter plusieurs activités à l'intérieur. Donc, c'est assez long. J'ai mis donc 2 ans avant de pouvoir me présenter. En fait, tous les ans, tu as 2 jurys. Donc, tous les 6 mois, donc, tu peux te présenter, envoyer le dossier. J'ai eu de la chance ou peut-être que j'ai bien travaillé. Oui, un peu des deux. Du coup, j'ai eu le diplôme des premiers coups alors qu'il y a quoi, 10, normalement 17% de chance.
Ah, bien.
Pour ceux qui se présentent. Donc, je me suis dit, c'est cool. J'avais pas du tout envie de passer à l'oral parce que ça, c'est pas où je suis la meilleure. Enfin, pour me vendre en tout cas.
Ok.
Là, c'est un peu ça, c'est se vendre, dire si, je. C'est moi, prenez-moi, donnez-moi le diplôme. Et donc, du coup, l'écrit a amplement suffi. Donc, c'était encore plus contente de ne pas à passer cette étape-là. Et après, qu'est-ce que je vais passer C'était quoi déjà la question?
La vraie question, c'était comment tu as découvert la couture? On a bien glissé.
Oui, c'est ça, je pense que
j'ai bien. Non, mais c'est intéressant de savoir d'où tu viens pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Et du coup, tu as ce diplôme ?
Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, j'ai eu un accident à mon travail, parce que j'étais fonctionnaire, donc je travaillais pour les mairies, donc je travaillais au centre social, dans les écoles, tu sais, la garderie du matin, midi et soir, je faisais ça, et je faisais le centre de loisirs. Et j'ai eu un accident à l'école, j'ai un élève qui m'a donné un mauvais coup, donc ça m'a créé une entorse au cervical. Suite à ça, donc j'ai eu 7 mois en arrêt, donc impossible de bouger. Et donc, pendant ces 7 mois, j'ai eu le temps de réfléchir à qu'est-ce que j'allais faire par la suite, parce que je voulais pas rester sur mon poste actuel. À la base, en fait, juste avant, j'avais pris des congés sans solde, en fait, pour réviser, pour passer un concours pour devenir coordinatrice. Donc, coordinatrice, ça équivaut à être, en fait, dans les bureaux de la mairie et tu gères plusieurs écoles et donc plusieurs équipes d'animation en même temps. Ce concours-là, c'était 5 jours après mon accident.
Donc, du coup, tu as décliné?
J'ai voulu y aller, mais c'était pas possible. J'étais pas du tout en état pour me lever et faire le trajet. Donc, du coup, il n'y a pas comme pour le bac, tu sais, la séance de rattrapage, ça n'existe pas. On dit, non, madame, là, il faudra repasser dans le prochain. Et je dis, le prochain, c'est dans quand? Minimum 2 ans, s'il y a une ouverture de poste.
Oh, l'enfer.
Et là, tu te dis, alors déjà que tu en as marre de ton poste, là où t'en es, et là, on te dit, il faut attendre 2 ans.
Oui, c'est ça, tu en as marre de ton poste, tu viens, tu es en arrêt de travail à cause d'un élève, bon bref, et en plus la seule perspective que tu avais, c'est minimum dans 2 ans, quoi.
C'est ça.
Génial, on adore.
Exactement. Là, tu te dis, en plus, dans 2 ans, tout ce que j'ai révisé, bon, déjà, les lois, il y aurait des lois qui auront changé, puis il y a des choses que tu auras oubliées d'ici là. Donc, il faudra repasser sur cette case de je révise. Et ouais, j'étais un peu déprimée par rapport à ça. Et je me suis dit, bon, j'avais quand même en fait ce projet en tête de me lancer à côté. En fait, ce poste qu'ils m'ont proposé, en fait, c'était pas un 35 heures, c'était un genre un 20 heures. Donc, je m'étais déjà projetée sur, tiens, je donnerais bien des cours de couture à côté. Parce que j'avais envie de revenir à ce côté animation et couture, à allier vraiment les deux. Il y a un magasin de tissus qui s'est ouvert juste à côté de chez moi, même pas un mois avant mon accident. Et donc, je les avais contactés en disant, ah, ça ne vous intéresserait pas, une prof de couture. Ils m'ont dit, ah, bah si, carrément, on aimerait bien mettre ça en place. Alors, pas tout de suite, parce qu'on vient juste d'ouvrir le magasin. Et bon, au niveau organisation, c'était leur premier magasin en plus. Ouvert, donc ils se sont dit bon, on va attendre un petit peu avant de le mettre. Donc moi, ça me convenait, puis bon, après de toute façon j'étais en arrêt, donc j'ai pas pu donner les cours. Et après, ouais, je me suis dit bah écoute, pourquoi pas essayer de tester déjà si les cours de couture ça te convient, parce que j'avais jamais fait ça. J'avais plutôt un public jeune, donc plutôt du 3-18 que de l'adulte aussi, donc je savais pas aussi si ça allait me plaire. C'est aussi différent,
bien sûr.
Et donc, ils m'ont proposé, donc pendant mon arrêt, tu as le droit, tu sais, de faire du bénévolat, donc sur quelques heures, sous l'autorisation du médecin. Donc, au bout de 5 mois, j'ai dit, bon, mon médecin m'a dit, ce serait bien de reprendre une petite activité, pas trop longtemps, donc 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Mais je me suis dit, bah tiens, je vais tester cette activité-là. Donc, pour le magasin, ils étaient très contents. Je viens de travailler bénévolement.
Tu n'as même pas le droit d'être payé, quoi.
Ah non, 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 bah non. Bah...
Si tu es payé, tu es hors la loi. Donc, non, il faut que tu viennes gratos. C'est parfait pour le magasin.
C'est ça. Bon, après, ma mairie a quand même, parce que le magasin était au même endroit que la mairie. Donc, la mairie a quand même demandé qu'est-ce que. Essayer de voir qu'est-ce qu'elle fait. J'aurais bien pas travaillé, mais elle va faire ça. Bon, après, j'aurais bien dit. J'aurais dit. Voilà, mon médecin a voulu que je fasse une petite activité, 2 heures, ça me permet aussi de tester si ça me convient ou pas. Donc après, ça s'est déréglé, mais bon, ils ont été soupçonneux sur le truc. Et donc, ouais, j'ai commencé, ça m'a bien plu. J'ai pu reprendre le boulot, mais à temps partiel, pendant 2 mois. Et en fait, je ne sais pas, une semaine après, j'ai repris, j'ai dit, comment ça se passe pour faire une disponibilité? Donc j'ai fait les papiers. Alors, tu peux pas être en dispo du jour au lendemain, il y a un délai.
Il y a un préavis, ouais.
Ouais, il y a un préavis. C'était un préavis de 2 mois ou 3 mois, je sais plus. Et donc j'ai demandé une disponibilité de 3 mois. Parce que j'avais pas forcément trop de sous de côté. Donc je me suis dit, je devais avoir, je sais pas, sur le compte, je devais avoir peut-être 6 000, donc toi l'équivalent de 3 mois de salaire. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, on teste pendant 3 mois, on va voir ce que ça donne. J'en ai parlé à mon conjoint aussi, parce que forcément, tu te lances à ton compte, est-ce que le conjoint va vouloir suivre? Du coup, lui, il était partant, il m'a dit, de toute façon, ça ne te plaît plus ton boulot, teste, tu verras bien. De toute façon, voilà, avec mon salaire plus le tien, ça va aller, on va s'en sortir. Donc, je pars, je débute, je fais mon premier mois à mon compte. Et mon objectif, c'était au moins gagner le SMIC dès le départ, très rapidement. C'était un peu ça l'objectif. Et au final, le premier mois, je suis presque à 1 000 euros.
Tout ça en donnant des cours dans le magasin, dans la mercerie qui avait ouvert à côté de chez toi.
Ouais, c'était que mon unique revenu, donc c'était les cours de couture chez eux. Et donc, premier mois, presque 1 000 euros. Et puis en plus, du coup, des cours de couture, moi, c'était dans le magasin, donc moi, j'ai amené rien du tout à part mon savoir-faire. Donc ça ne me coûtait rien en plus en tant que matériel. Donc ça, c'était bien à part mon temps. Donc c'était presque du net au final ce que je recevais. Et en fait, au bout de le deuxième mois, en fait, je dépasse le SMIC. Et le troisième mois, pareil, c'est allé qu'en montée. Donc, je demande, allez, on recommence sur 3 mois. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Donc, tous les 3 mois, j'ai renouvelé. Au bout d'1 an, je me suis dit, Gaëlle, ça marche bien. Tu gagnes beaucoup mieux ta vie qu'avant quand tu étais fonctionnaire. Donc, je suis partie sur une disponibilité de 1 an.
Tu es obligée, quand tu prends une disponibilité, de dire combien de temps tu vas être absente. OK. Je n'ai jamais fait, donc je ne sais pas.
Si, parce qu'en fait, eux, c'est pour savoir déjà s'ils doivent prendre quelqu'un. Et puis, du coup, ils prennent et après, eux, ils sont obligés de te reprendre, en fait, au bout de la disponibilité.
Oui. Donc, si tu as envie de revenir, en l'occurrence.
Oui, voilà, c'est ça.
ce qui n'est jamais arrivé.
Exactement. Et puis eux, en fait, aussi, ça leur permet d'avoir une durée, parce que moi, par exemple, imagine, au bout de 6 mois, sur les 1 an, je veux reprendre, ils ne sont pas obligés de me reprendre. Par contre, au bout des 1 an, ils sont obligés de me reprendre. Donc, ça leur permet aussi d'avoir un délai pour se dire, on prend un CDD d'un an avec une personne.
Oui, je n'avais pas vu ça du côté de l'employeur. Effectivement, pour s'organiser, c'est peut-être mieux de savoir
c'est ça.
Combien de temps tu n'es pas là ou tu risques de revenir. Ouais, ok.
Ouais. C'est ça. Bon, après, normalement, ils sont censés te redonner ton poste que tu avais avant. Mais si, pour X raisons, enfin, ils ne peuvent pas, ils sont obligés de te redonner un autre poste équivalent. Et s'ils n'arrivent pas, ils te payent en attendant qu'ils trouvent un poste. Mais en général.
Pas mal.
Oui, mais en général, t'inquiète pas qu'ils arrivent à trouver.
On te trouve des trucs à faire dans une mairie généralement. Ouais. Et du coup, au bout de... Donc là, tu prends 1 an de disponibilité. Enfin, tu te mets en disponibilité pendant. Je sais pas comment on dit.
Pour 1 an, ouais.
Ok. Et tu continues à faire à faire des cours dans cette mercerie ou ouais. Tu changes un peu.
Alors attends, je réfléchis. Je crois que c'est en la première année déjà. L'accident, c'était en fin 2017. Et donc, je débute complètement mon activité en octobre 2018.
Ok.
Et donc, octobre 2018, donc, je me lance. Et en fait, ce qui arrive pendant les cours, c'est que j'ai des élèves qui me disent... déjà pour les cours, c'est souvent on te demande, tu vas donner une thématique. Sauf que le problème, c'est que pour une thématique, des fois, ils aiment bien avoir un patron. Le problème, c'est qu'il faut demander au créateur, est-ce que j'ai le droit, c'est ton patron. Il faut du coup acheter le même nombre de patrons pour tous les participants. Et moi, je me suis dit, ouais, ça fait trop de trucs. Et après, je me suis dit, Gaëlle, tu as fait tes études dans la couture, tu sais patronner, tu sais le faire. Pourquoi pas créer donc, du coup, les modèles pour les cours. Donc, au départ, c'était juste pour les cours que je créais des modèles. Et là, j'ai eu des élèves qui me disaient « Ah bah ouais, mais moi, ça m'intéresse. » Mais en fait, je sais déjà coudre. Enfin, je suis en capacité de le coudre tout seul. Et moi, je voudrais juste avoir le patron. Et donc là, je me suis dit « Ah oui, du coup, je n'avais pas du tout prévu ça. » Parce que moi, à la base, à l'école, j'ai appris avec l'Ectra. Donc, rien à voir avec... si, je pourrais l'acheter, mais c'est...
Écoute, je crois que c'est 5000 euros la licence Lectra, c'est un truc comme ça.
Ah bah, si c'est 5000, ça a baissé, hein, parce que...
je me suis peut-être mal renseigné.
C'était plutôt dans les 10 000.
Yes.
Et donc, je me suis dit, ok, bon, bah, du coup, j'ai fait des recherches. Donc, j'ai commencé avec. C'est quoi ? C'est Vanessa, je ne sais plus.
Non, le truc. Valentina.
Valentina, pardon. Valentina, qui d'ailleurs ne s'appelle plus Valentina maintenant, ça s'appelle un autre truc, c'est un autre nom. Je commençais avec Valentina et après, je suis basculée sur Illustrator par la suite, une fois que j'ai créé mes bases. Et donc, j'ai créé mon site internet où j'ai commencé à vendre donc, mes patrons. Et donc, j'ai continué à faire ces deux activités, mais mon activité principale, c'était surtout du coup, les cours de couture.
À ce moment-là, c'est ça qui te rapporte le plus ?
Ouais, on va dire, c'était oui, 80% cours de couture et 20% les patrons. Après, je ne faisais pas du tout de pub par rapport aux patrons. Enfin, tu vois, moi, c'était surtout les cours de couture. Mais dans ma tête, je réfléchissais parce que je me suis dit, ce qui est embêtant quand tu es auto-entrepreneur, c'est d'avoir en gros qu'un seul client.
Mmh. Ben, je crois que c'est illégal, non ? Il n'y a pas un truc comme ça ?
C'est pas forcément illégal d'avoir un seul client. Il ne faut pas que ce soit... Là, en fait, en gros, je venais quand je voulais. C'est moi qui donnais mes horaires et c'est moi qui donnais mes prix. Donc, c'est pas comme si c'était du salarial si j'ai qu'un seul client. Par contre, eux, ils m'imposaient en me disant tu dois venir tel jour, machin, enfin, toi qui me donne des ordres par rapport à ça. Là, ça pourrait être déguisé comme du salariat, mais autrement, non.
D'accord.
Mais c'est surtout que si, qu'au du jour au lendemain, on peut te dire que.
Je suis désolée, tu ne peux plus venir.
Voilà.
On a embauché quelqu'un et voilà, on n'a plus besoin de toi.
Bon, en vrai, les clients, ils étaient hyper contents. Donc, eux, ils étaient hyper contents. Donc, potentiellement, je me suis dit, ça ne devrait pas arriver, mais on ne sait jamais.
Et il y a toujours un risque, oui, que du jour au lendemain, ou même la mercerie ferme.
Ouais, c'est ça. Donc,
tout peut arriver.
Donc, il faut quand même avoir un plan B et un plan C aussi.
Idéalement.
Au cas où. Donc, je me suis dit, il va falloir que je trouve d'autres clients. Donc là, je me suis mise sur la plateforme, sur plusieurs plateformes. En fait, c'est les plateformes qui m'ont contacté, donc Makerist, Vissue, etc. D'ailleurs, c'est avec Bissou que j'ai créé mon premier patron. C'est eux qui m'avaient contacté parce qu'ils se sont créés à peu près en même temps que moi, je me suis lancée. Donc, c'est Juliette, la créatrice. Et du coup, elle m'a dit, ah, bah, tiens, pour ton premier patron, vas-y, on le fait ensemble et on le lance sur Vicio. Et du coup, j'avais dit, bah, écoute, carrément, moi, ça, comme je n'y connaissais pas trop encore, tu vois, comment mettre les patrons. Et puis, bon, moi, je savais quoi, donc j'ai jamais trop utilisé de patron, en fait, de d'autres créateurs.
D'accord.
Donc, je ne savais pas trop exactement comment ça marchait. Moi, j'avais, bah, voilà, mes montages, mais un peu côté pro, tu vois. Donc, c'est vraiment des graphiques, des schémas. Avec des traits et des ronds et toi.
Et c'est industriel en fait là ce que tu décris. C'est ça que tu avais appris en formation, c'était un peu ce qu'on voit au CAP.
Ouais, oui, ben voilà, c'est exactement ça. C'est ce que vous voyez ouais au CAP. Et
tu sais lire un je sais plus comment ça s'appelle un schéma de production où en gros on te dit étape 1, faut une piqûre droite, etc.
Ouais.
Avec des schémas très très industriels quoi, je sais pas comment dire.
Oui, non, mais si, c'est ça. Ben, en fait, couture floue, c'est vraiment très complet. C'est-à-dire que tu pars, en fait, là, tu apprendrais tous les corps du métier. Donc, c'est-à-dire de, il y a une thématique, tu imagines une thématique, et du coup, tu fais un croquis. Donc, il y avait une partie stylisme. Après, il y avait une partie donc modélisme et patronage. Et après, l'idée, c'est qu'à partir de ça, donc, est-ce qu'on peut apprendre à créer aussi une base pour créer pour un particulier, donc pour une commande particulière. Et on apprenait aussi la partie ben, si on voulait industrialiser le produit. Donc, il fallait créer aussi un dossier là-dessus. Donc, c'était assez complet. Ce que je reproche maintenant, justement, ce qu'ils ont réduit, du coup, enfin, ils ne voient plus toute cette partie-là. Mmh. C'est vachement réduit. Enfin, tu vois, en heure de couture, moi j'avais 14 heures, maintenant ils sont à 6-7 heures de couture. Donc ouais. tu vois le truc, c'est hyper réduit. Et du coup, je ne sais plus pourquoi on était parti là-dessus.
On parlait que tu te rends compte que tu n'as qu'un seul client et que si jamais il te, tu ne l'as plus, bah, tu es un peu dans la mouise.
Exactement. Donc je suis partie. Donc mes curistes m'ont vachement aidé aussi. À me faire connaître. En fait, moi, j'ai rencontré l'équipe Mécuriste en 2019 et tout de suite, moi, je me suis mis à fond avec eux en donnant. Donc, c'est-à-dire que moi, je leur faisais pas mal de publicité, ils me faisaient pas mal de publicité. Moi, ça me rapportait des clients qui ne me connaissaient pas forcément et qui ne m'auraient peut-être pas découvert. Et pareil avec Vicio, donc ça me permettait d'avoir un peu plus de revenus côté patron. Donc, ça s'équilibrait un peu plus. Et en 2020, bah, il s'est passé, comme tout le monde, le Covid, les confinements. Et donc là, on te dit, bah, ouais, tu ne peux plus faire d'atelier présentiel. Et je suis manquée. Bon, bah, on va établir plus sur les patrons, du coup. Donc, je suis partie sur les patrons à fond. Et quand il n'y a eu plus le confinement, j'ai repris un peu les ateliers. Et finalement, ça avait tout basculé. C'est-à-dire que 80% de mon salaire, c'était les patrons et 20% mes cours. Et puis, j'avais beaucoup de projets à côté. Parce que du coup, on n'a pas parlé, mais j'avais des illustrations aussi qui continuaient à côté. Je fais des illustrations pour Mondial Tissu. Du coup, c'est quoi, fin 2019, ils m'ont contacté pour me demander de faire des illustrations pour eux une fois par mois. J'ai fait du coup, donc j'ai fait 2020, 2021 et là 2022, j'ai fait des illustrations pour eux. Et j'avais rencontré aussi pareil fin 2019 l'équipe Idéafaire où elle m'avait demandé de faire des illustrations dans leur magazine. Et à côté de ça, fin 2019, toujours pareil, j'ai sorti ma première BD d'illustration. Du coup, tous ces projets-là sont arrivés, en fait. Enfin, tu vois, tout ça, c'est fin 2019. Tout est arrivé fin 2019 et ça a un peu décollé fin 2019 sur cette partie-là.
Je vois, t'as sorti, mais tu dis deux livres. Non, t'en as sorti quatre.
J'en ai sorti, ouais, quatre maintenant.
Deux livres de bande dessinée, enfin, c'est roman graphique, je sais pas comment tu les appelles.
Ouais, c'est une BD, ouais, c'est une BD, on va dire.
Deux BD, un agenda couture.
Ouais.
Et un vrai bouquin de patron qui s'appelle Ma garde-robe éco-responsable à coudre.
Ouais, exactement.
Et... Je triche un peu, hein, je suis sur ton site en même temps. Mais c'est des bouquins qui sont bien mis. J'étais chez, quand je fais ma revue de presse, moi je vais beaucoup chez Cultura par exemple. et on les trouve très facilement, quoi.
Bah, c'est chouette.
C'est pourvu que ça dure.
Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la BD, c'était pas du tout mon métier à la base. Enfin, moi, c'était en mode loisir hein, que je faisais ça. Ça a été un peu la surprise. En fait, donc quand je te disais tout à l'heure, j'ai commencé donc à temps plein en octobre 2018. Ma première illustration est sortie donc fin octobre 2018 sur les réseaux. Okay. Et décembre 2018, j'ai une maison d'édition, donc ma maison d'édition, la Créapassion, qui me contacte pour faire une BD. Et là, du coup, elle m'a dit, attendez, mais moi, c'est pas du tout mon métier. J'ai dit, je sais pas, du coup, c'était tous les jeudis, donc je sais pas, il y avait peut-être 10 BD, 10 histoires qui étaient sorties. Je dis, mais vous êtes sûre et tout. Et elle était hyper à fond, elle me dit, non, mais si, je suis sûre, ça pourrait marcher et tout ça. Alors, je dis, bon, ok. Enfin, moi je suis hyper honorée. Enfin, moi, je suis hyper contente de faire ce bouquin-là. Surtout quand j'étais jeune au lycée, je m'étais dit, ouais, je dessinais beaucoup de mangas. Et je m'étais dit, ce serait cool de faire sortir un jour une BD. Mais tu vois, c'était un peu en mode, ça n'arrivera jamais. C'est juste un rêve comme ça, tu vois. Et donc, quand elle me dit ça, je fais, ok, mais moi, je ne connais pas du tout les codes aussi. Parce qu'il y a un code, normalement, dans la BD.
Il y a des codes, il y a des process, j'imagine. On ne fait pas un livre comme ça, quoi.
C'est ça. Et en fait, elle est tombée... Elle est tombée un peu malade, donc en fait, elle m'a pas trop bien suivie sur le premier bouquin. Donc moi, j'étais un peu perdue, j'avais pas trop de nouvelles, donc je l'ai fait comme je sentais.
Ok.
Eux, ils ont créé ils ont sorti quasiment tel quel le livre comme moi je l'avais fait. Et en fait, moi j'avais toujours les doutes. Je me suis dit, ce truc ça va jamais marcher, ça va faire un flop total. Et au final, dès la sortie, pourtant j'avais très peu d'abonnés, donc j'étais pas trop connue. Hein. Fin 2019, je devais peut-être être à 500 abonnés, tu vois, un truc comme ça. Donc, pas grand chose. Et je sais pas, dès que c'est sorti, je sais pas, il y a eu 500 ventes dès le départ, sur la première semaine. Et le livre a été coulé en très peu de temps. Ils n'en avaient pas sorti des masses parce que en fait donc ils sont deux à gérer Créapassion, donc ils étaient mariés donc et ils sont séparés, et donc mais maintenant c'est surtout donc Didier Vitray qui gère Créapassion, et lui il n'était pas du tout chaud pour ce projet à base. Il croyait pas du tout à ce projet. Bon, moi j'étais pas du tout en lien avec lui, donc moi je savais pas.
Oui, tu l'as su après. Oui, j'imagine qu'ils t'ont pas démarché en disant, bon, écoute, moi, j'y crois pas du tout, mais bon, c'est mon ex-femme qui mise dessus.
C'est ça.
Quel enfer.
Et donc, je dis, bon, j'ai appris ça, en fait, après, parce que, en fait, quand elle m'a contactée, donc, elle m'avait parlé de la BD et elle m'avait parlé d'un autre bouquin. Elle voulait que je fasse un autre bouquin sur Couture Jersey. Et donc, je lui ai dit, écoute, oui, si tu veux. Et ben, j'avais pas eu de nouvelles, et donc, j'ai jamais fait ce bouquin-là, du coup. Et en gros, j'avais beaucoup de demandes pour que les gens, enfin que ça se réimprime, et aussi d'une suite. Okay. Et du coup, je leur envoyais comme ça. Je dis, bon, alors. Et du coup, lui, dans sa tête, il se disait, ouais, elle nous saoule, elle veut faire sa suite de BD, elle n'a même pas fait le livre sur le jersey là, qu'elle avait dit qu'elle ferait. Et puis moi, sa BD, je ne voulais pas la sortir. Du coup, un jour, on se téléphone. Il me dit, ah, mais en fait, vous avez l'air sympa. Ben, je dis, oui, pourquoi? Et du coup, je lui raconte le truc, il raconte sa version. Et je dis, ah, mais non, mais pas du tout. Je dis, moi, c'est pas moi qui ai proposé de faire une BD. En fait, on est venu me chercher et c'était le livre. On m'a demandé ça en plus. Je lui ai dit, oui, pourquoi pas. Elle me dit, ah, non, il me dit, moi, c'était pas du tout ça. Moi, pour moi, on vous a contacté pour le livre jersey. Mais par contre.
Et t'as refourgué ta BD, quoi.
Ouais, en gros, c'était moi qui avais refourgué ma BD.
Ok.
Et je dis, ben non, c'est pas du tout
ça. C'est exactement l'inverse.
Ouais, c'est ça.
Incroyable.
Et donc, j'ai fait, donc, du coup, il m'a dit, effectivement, c'est vrai que ta BD, elle est sortie, elle s'est écoulée très rapidement. Après, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, en fait, du coup, comme ils n'y croyaient pas trop à ce projet, ils avaient mis un prix, à moins de 10 euros le bouquin. de base, et puis ils avaient fait ça en mode un peu vite fait, parce que c'était dit, enfin, toi, le livre va pas se vendre, et puis on gaspille pas trop. Et donc ils m'ont dit, bah, si on fait une suite, on va refaire un autre bouquin. Celui-ci, on va le rééditer, mais du coup, dans la nouvelle version qui ira avec le second. Et je fais, bon, bah, ok, bah, pas, ça marche très bien, comme ça, il y en a plein qui veulent le premier. Et donc, du coup, 2021, donc 2019, fin 2019, le premier sort. Et fin 2021, donc la suite sort.
Et, toujours avant Noël. Hein.
Ouais, mais en fait, c'était ce caprice que j'avais fait au départ. J'avais dit, parce qu'en fait, ce fait, quand ils m'ont contacté, c'était donc décembre, mais elle, je l'ai rencontrée qu'en juin. Du coup, on avait fait un repas et elle m'avait dit, bon, par contre, t'as quand même un délai, parce que par rapport aux commerciaux, pour annoncer les bouquins, c'est au moins 6 mois avant de sortie et tout ça. Et donc, ils ont des rendez-vous spécifiques dans l'année. Et je sais plus, genre une semaine après, elle devait rencontrer du coup les commerciaux pour valider. Et donc, j'avais une semaine pour signer le contrat, présenter une couverture et présenter au moins une histoire.
Et tu n'avais rien à ce moment-là?
Non, j'avais rien du tout. Après, l'histoire, j'avais pris une que j'avais déjà et ouais. Dessiné pour la présenter avec le format du bouquin. Et après, la couverture, en fait, c'est l'histoire de juste, tu peux remodifier en fait, derrière. C'est pareil, c'est juste pour eux, les commerciaux, qui puissent s'imaginer qu'est-ce que ça va être comme type de bouquin et avoir qui faut cibler et à qui il faut le présenter. Donc voilà, donc du coup, ils ont présenté ça. Et en fait, ouais, moi, 6 mois, j'avais dit, mais par contre, on rembobine. Il devait sortir, m'a dit en mars 2020. Et j'ai dit, mais alors, du coup, moi, déjà, je ne suis pas connue. J'ai dit, une BD comme ça, c'est plutôt à offrir à une couturière. J'ai dit, le mieux, ce serait quand même de sortir avant Noël. Parce que je me suis dit, c'est plutôt un cadeau que tu peux offrir à Noël, et c'est là où ça va mieux le marcher que si on sort en plein milieu d'année. C'est pas, il n'y a pas d'astuce couture, il n'y a pas de patron, enfin, il n'y a rien dedans. Donc, elle m'a dit, ouais, mais ça va faire juste, machin. Elle a dit, bon, ok, vas-y, si t'insistes, on va faire ça. Et finalement, j'ai bien fait d'avoir fait ça, parce que ça ne serait pas vendu, je pense, pareil.
Surtout en mars 2020, quoi.
Oui.
Si effectivement ça avait dû sortir à cette date-là, ça aurait été assez moyen au niveau des ventes. Mais bon.
Ouais, c'est ça. Mais franchement, ouais, c'est cool. Mais du coup, ça avait rajouté un truc en plus pour lui, parce qu'il s'était dit, alors déjà, qu'elle nous saoule, parce qu'elle ne veut pas faire la date qu'on avait dit au départ. Donc ça a rajouté encore un truc en plus. Ça fait l'autrice qui est hyper enquiquinante.
Ouais, t'as zéro expérience et t'exiges des trucs intenables, super quoi. Et en plus, tu fais pas le travail pour lequel on t'a embauché. Bien, bien Gaëlle.
C'est ça, exactement. Et puis en plus, j'avais négocié aussi plus le contrat, j'avais négocié un peu plus le livre que d'autres livres, parce que souvent les livres, c'est plutôt entre 3 et du 5% sur les livres de couture. Et moi, j'avais négocié, à 7. Moi, je crois que c'est ça, j'avais dû négocier 7, à 7, 7%. Parce que j'aurais dit, c'est du copier-coller, quoi. Donc, vous allez peut-être avoir moins de travail de mise en page que sur un livre spécial à patron couture, parce que effectivement, il y a des photos,
il y a des textes à mettre au bon endroit et tout. Ah oui, d'accord.
Ouais. Donc voilà, ouais. Donc du coup, j'avais demandé à être augmenté par rapport à ça et pas être payé comme pour les autres bouquins. Donc ce qu'ils font rarement, en général, c'est pas ce pourcentage là qu'ils offrent. Donc voilà. Et puis après, ouais, bah, 2021, j'ai fin de 2021, je vais finir sur les genoux parce que j'avais accepté aussi de faire un livre pour Marie-Claire, donc le livre là de couture. Et franchement, c'est cool à faire, mais franchement, je me dis, c'est bien.
Ok.
Non, mais ça te prend énormément de temps pour finalement pas avoir grand-chose à la clé. C'est plus rentable pour moi de sortir 20 patrons, parce que dedans, il y a quand même 20 patrons. Sortir 20 patrons et que moi, je me les vends toute seule, que créer un bouquin avec 20 patrons. Puis en plus, ils te demandent 20 patrons exclusifs. Donc, tu ne peux pas utiliser. Donc, c'est quand même
t'es plus propriétaire, enfin t'es toujours propriétaire, mais tu n'as pas le droit de les réutiliser pour ta pour les vendre séparément sur ton site par exemple.
Exactement, c'est ça. Yes. Après bien sûr, enfin moi ça me crée des bases, et après moi je peux les modifier pour créer un autre patron.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
À partir de ces bases-là, mais je peux pas ouais, les utiliser telles quelles pour les vendre. Donc c'est pas très intéressant, sachant que en général, enfin, sauf si c'est un best-seller et du coup tu te dis bon, ce sera sur le temps, ça va me rapporter des sous, mais c'est quand même très peu. 5% sur 20 €, tu vois, c'est pas énorme quoi.
Et puis t'en vends pas des centaines de milliers quoi non plus.
Ben non. Alors les patrons, t'en vends pas des centaines de milliers, mais t'en vends des milliers peut-être à toi-même.
Moi ?
Non, mais
bien sûr. Non, ah, mais... oui. Non, toi, si tu les faisais, oui, bien sûr.
Oui.
Et je pense qu'à terme, en plus, enfin, l'avantage du patron aussi, c'est qu'une fois qu'il est fait, tu le mets sur le site et c'est fini. Exactement. Enfin, tu me diras, le livre, c'est pareil. Mais le livre, j'ai l'impression que c'est tellement de boulot, tellement de temps, de prise de tête, de relecture, d'aller et retour avec l'éditeur pour valider les trucs, que et pour une somme qui est, oui, somme toute, par rapport au temps que ça te prend, c'est assez ridicule.
Ouais, c'est ça.
Tu as eu beaucoup de courage. Du coup, c'est fini les bouquins ?
Alors, moi, j'aurais dit, je suis partante, mais si par exemple, on est plusieurs créateurs, donc moi, j'ai qu'un ou deux modèles à créer, moi, ça me dit bien, parce que franchement, c'est quand même une bonne expérience, c'est sympa, ça te fait quand même de la publicité, hein, pour quand même. Et puis ça te permet aussi de dire voilà, j'ai des éditeurs qui m'ont fait confiance, et du coup ça donne un appui sur ta marque, on va dire, là-dessus. Mais oui, après je dirais, enfin je le dis aux personnes, ouais, s'ils me demandent ouais c'est bien de faire un bouquin, je dis ouais c'est cool d'en faire un. Après si tu veux en vivre, c'est un peu plus compliqué quoi.
Il faut faire du polar et en vendre des milliards.
C'est ça.
On s'appelait Stephen King.
Ouais, ce que j'allais dire. Ou j'allais dire Musso. Ou
Chatham, ou ce que tu veux, oui. Mais... Ou Boulet. Si tu... La BD, du coup, parce que c'est pas le même. Pour toi, j'ai l'impression que c'est pas le même investissement.
Non, parce qu'en fait, la BD, j'ai vraiment un réel plaisir de dessiner. Déjà, enfin, c'est un loisir pour moi. Alors, après, j'adore créer des patrons. Mais il y a des parties que t'aimes moins bien. Alors que la BD, ça me plaît. Je le fais toutes les semaines. Donc j'ai déjà du contenu déjà en fait de base sur mes réseaux. Alors même s'il y a du inédit quand même dans les bouquins, je prends pas que ce que j'ai déjà créé. Et puis ouais, ça me demande moins de. Je veux dire, j'ai pas la contrainte de sur le patron, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, parce que bah, une fois que c'est imprimé, c'est pas comme le PDF où tu peux rectifier derrière. Là c'est fichu, donc peut-être pas cette pression là. Et puis aussi les délais de bouquins, en fait, il faut savoir, c'est que souvent ils te demandent genre 3 mois avant de sortir le bouquin, tu vois. Enfin 3 mois avant de eux qui te disent il faut rendre le bouquin. Donc moi ils m'avaient contacté, je sais pas, genre fin octobre. Et genre, au 21 décembre, il fallait que j'ai tout rendu. Et ben, là, j'ai dit, enfin, ça va être compliqué. Hein, de... là, vous me demandez 20 modèles, il faut faire de la taille 34 à 48. Vous voulez que... Parce que ben, du coup, ils m'ont dit, ah, mais comme tu sais dessiner, nous, on aime bien, c'est ta patte, l'illustration dessinée. Donc, ça serait bien que...
En plus, il fallait faire des dessins pour illustrer le bouquin. Yes.
Ouais, le tuto, du coup, ils ne voulaient pas de photos, ils voulaient justement des illustrations. Donc,
bien sûr.
ça fait énormément de boulot. Et là, tu te dis, non, enfin, c'est énorme. Du coup, j'avais négocié quand même qu'ils puissent... Moi, je crée la base taille 38 et qu'ils se débrouillaient pour faire la gradation, que au moins ça, cette étape-là, je ne suis pas obligée de la faire parce que ça demandait pas mal de travail. Mais ouais, moi, franchement, chapeau à celles qui font que ça. Il y a Jennifer Ornain. Donc, elle, c'est que des accessoires. Donc, elle vend pas mal de bouquins chez Créapassion. Hein. C'est une des autrices qui vend le plus chez eux. Mais du coup, donc, ouais, elle gagne pas mal avec ça. Après, aussi, elle vend pas mal en direct aussi son bouquin. Parce que, en gros, les maisons d'édition, elles te proposent toujours, tu peux acheter à 50% donc, le bouquin et tu peux le revendre par toi-même. Donc, c'est là okay. où tu peux gagner un peu plus de sous. Donc, moi, pareil pour la sortie en général. Alors, moi, j'aime pas trop, je trouve que c'est trop de travail, tu vois, en voie de commande.
Donc, c'est un enfer.
Ouais.
J'ai pas emballer les trucs, aller à la poste, gérer les retours s'il y en a, enfin c'est terrible.
Tu vends toi des produits physiques?
Alors moi j'ai une petite marque de vêtements avec ma compagne, donc on vend des salopettes notamment et on les envoie et c'est très chiant. Et avec mes patrons de couture, moi je me suis dit j'aimerais bien avoir des porte-clés et des pins couture et du coup je vends aussi ces trucs là. Sur mon site, et oui, ça demande... Enfin, tout ce qui est manutention, c'est très, très chiant. Stockage pour... Enfin, voilà. Dès qu'il y a une commande, c'est tout de suite l'enfer parce que ça va te prendre... C'est pas long, mais quand il y en a plein, c'est chiant. Et après, il faut donc aller à la poste, chercher des enveloppes, des machins. Enfin, voilà. C'est beaucoup plus de travail qu'un patron PDF où tout est automatisé et de temps en temps, il y a un souci, mais c'est quand même pas automatique, quoi.
Ouais, mais c'est ça exactement. Et moi, du coup, je fais le bouquin juste au moment de sa sortie parce que bah, y a toujours quelqu'un qui aime bien avoir les dédicaces. Voilà, et puis, je crée des goodies spéciales que pour le lancement du bouquin. Donc, je fais voilà, des packs à chaque fois. Mais après ça, après le reste de l'année, j'essaie le moins possible de vendre des trucs en physique. Parce qu'effectivement, aller à la poste, il faut aller acheter des enveloppes, il faut acheter ci. Parce qu'en fait, finalement, tu additionnes les trucs, tu te dis, ah ouais, putain, et ça fait pas mal de frais pour finalement gagner que 2 euros sur la totalité de.
Oui, c'est ça, c'est qu'un livre, tu ne vas pas le vendre non plus 50 balles, donc tu ne vas pas gagner des 1000 et des 100. Et le temps que ça te prend par rapport à. Moi, c'est le calcul que je fais au fur et à mesure. Quoi. Je me dis, si je ne vendais pas ce truc-là, je pourrais utiliser mon temps à faire autre chose. Et... Bon.
Exactement.
Tu es arrivé au même truc. Toi, du coup, tu les revends pour faire plaisir.
Ouais.
Pour rajouter une dédicace.
Ouais, c'est plus pour faire plaisir. Parce qu'en plus, moi, je suis toujours autant entrepreneur. Je ne sais pas si toi, tu es toujours autant entrepreneur, mais tu travailles avec ta femme.
Non, nous, on a une boîte avec ma compagne. Ouais. On était obligés. Ouais.
Donc, moi, je ne peux même pas déduire les frais. Donc, toi, par exemple, si je vends 200 bouquins, alors du coup, oui, effectivement, ça monte la note, mais ça veut dire que je dois déclarer tout ça à l'URSSAF. Je dois leur repartager une partie, alors qu'il y a la moitié, c'est je l'ai payé. Quoi. Donc, ça fait un peu mal aux fesses, on va dire, entre guillemets, de
pouvoir... Ouais, en auto-entreprise, tu n'as pas intérêt à vendre des trucs, ouais, carrément. Même ouais. Tes patrons, hein, finalement.
Non, bah c'est pour ça que j'en fais en version pochette parce qu'on me le demande. Mais j'ai délégué ça, c'est-à-dire que je travaille avec Impression Plan Technique, qui du coup je lui passe la commande et c'est elle qui s'occupe d'imprimer le patron, de le mettre en pochette, de mettre l'étiquette et elle l'envoie comme ça. Mais je fais pas trop de pub autour de ça. Je préfère effectivement que les gens l'achètent en version PDF, mais ils ont au moins l'option de la pochette pour ceux vraiment qui le souhaitent.
Du coup, aujourd'hui, on est d'accord, c'est la couture, c'est ton métier.
Ouais. Oui, je vis pleinement de ça. Ouais. Bah, depuis octobre 2018.
Est-ce que tu veux bien nous parler de ta journée type? Est-ce que tu as une journée type déjà? Et si oui, à quoi elle ressemble? Qu'est-ce qui se passe le matin quand tu te réveilles? À quelle heure tu te réveilles? T'as pas d'enfant, je crois, Gaëlle?
Non, j'ai pas d'enfant.
Non, donc déjà, tu n'es pas obligé de te lever pour l'amener à l'école, ce qui est bien.
J'avoue que c'est vrai que ça, c'est pas mal. Bah, mon conjoint, lui aussi, il est auto-entrepreneur. Donc, rien à voir, lui, il est dans l'immobilier, les conseillers immobiliers. Du coup, c'est vrai qu'on se lève pas hyper tôt le matin. On est plutôt sur...
Quelle chance.
Ouais, on est plutôt sur du 8h30, 9h, voire si on a beaucoup travaillé la veille, du coup, on peut se lever un peu plus tard. C'est vraiment si on a des obligations le matin, on va se lever plus tôt, mais voilà, en général, c'est ça. Après, moi, je travaille plus. Je suis toujours plus productive au final le soir. Le matin, je peux me lever tôt. Hein, des fois, ça m'arrive de me lever à 7h parce qu'il y a un projet à rendre et que la veille, je n'ai pas eu le temps de terminer. Donc, je me lève, je ne sais pas, à 6h, 7h pour le terminer. Mais je sens que je suis beaucoup moins productive. Jusqu'à midi, en général, je ne suis pas très productive. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des tâches tu vois, qui ne demandent pas trop de réflexion. Donc, je vais plutôt... répondre à mes mails, à mes messages, tranquille. Je m'occupe des réseaux sociaux. Ça va être rangement de mon atelier. Et puis voilà. Et après, à partir de début d'après-midi, là, ça va être plutôt soit je vais partir, ouais, donc créer mes patrons, soit je vais faire m'occuper de tourner une vidéo pour un tuto. Qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi ça va être l'illustration aussi. Quoique l'illustration, ça peut être aussi le matin. Parce que pareil, si j'ai déjà mon histoire, quand je crée mon histoire, j'ai déjà la position de mes personnages, le texte et tout, j'ai pas besoin de réfléchir parce qu'en fait, du coup, tout est établi, j'ai juste à dessiner, j'ai juste à me préoccuper quel motif et quelle couleur de mes personnages je vais mettre. Donc, c'est pas trop compliqué. Et après, je peux travailler en fait jusqu'à. Alors moi, je pourrais travailler jusqu'à minuit si j'étais toute seule, tu vois. Mais du coup, avec mon conjoint, on essaye le soir, tu vois, après manger, on arrête de bosser et on se pose, on discute ou on regarde un film ou un truc. Mais ça ressemble un peu à ça, mes journées. Après, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je travaille aussi avec une copine une fois par semaine. Je t'en avais parlé, justement, je t'avais dit justement que je pouvais pas... Je t'avais dit, oui, je ne peux pas ce jour-là parce que je travaille avec quelqu'un.
Ok, mais je n'avais pas compris que c'était systématique.
Si, toutes les semaines, en fait, je travaille avec... donc, soit le lundi, soit le vendredi, ça dépend. C'est, parce qu'à un moment donné, en fait... t'es obligé de déléguer parce que tu peux pas tout faire. Donc j'ai ma copine qui est auto-entrepreneur, qui est community manager. Donc toutes les semaines, elle travaille donc avec moi. Et donc moi, en fait, community manager, mais c'est plutôt super assistante pour tout. C'est, okay. C'est parce que, on va dire parce que c'est mon bras droit pour. À ce moment-là et donc elle va m'aider sur les tutos, elle va m'aider sur la partie blog, elle va m'aider sur le site, elle va m'aider pour un peu toutes les tâches que moi elle peut, en fait, en gros, je peux lui déléguer et que moi je peux faire des choses qui vont un peu plus par exemple la partie patronage, ça peut pas s'en occuper, la partie par exemple régler les problèmes, le SAV, ça s'en occupe pas, c'est moi qui m'en occupe. Donc, montage vidéo, c'est moi qui m'en occupe aussi. Donc, on fait pas mal de choses comme ça ensemble. Et pour l'instant, ouais, je peux que la payer pour une journée. Mais si je pouvais, je la prendrais pour les 4 jours de la semaine.
Ouais, le but, c'est de la recruter à plein temps dès que ce sera possible, quoi.
Ouais, ou même carrément. Pourquoi pas, après, peut-être créer la société à deux, à la limite. Ouais,
s'associer dans un projet commun, ouais.
Ouais, ça pourrait être pas mal. Parce que du coup, c'est vrai que elle vient toujours avec moi sur les salons. Donc ça, c'est bien, parce que c'est vrai que sur les salons, t'as le temps de rien. Enfin, t'as juste le temps de voir les personnes. Mais moi, du coup, les réseaux sociaux, pendant les salons, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Et c'est important quand même de s'en occuper quand t'es sur des événements. D'échanger, quand même de partager l'événement, et c'est une chose que j'ai pas le temps de faire et que je prends pas en général le temps de le faire aussi, peut-être. Et donc, ouais, elle est là pour m'aider, et puis en gros, c'est elle qui est un peu, elle organise un peu les choses pendant le week-end pour un peu driver les trucs. Moi, ça me permet aussi de souffler et de pouvoir profiter aussi du salon un peu plus pleinement.
D'être moins dans tous les trucs qu'il y a à faire et de déléguer à cette partie-là, ouais.
C'est ça, exactement. Et de moi être plus là dans du coup, les salons, ça sert à quoi? Ça sert pour les partenariats. Ça permet aussi de rencontrer ton public en vrai. Donc, du coup, tout ça, ça prend du temps. Et si je devais être toutes les 2 minutes sur mon téléphone pour régler les problèmes du site, régler les problèmes réseaux sociaux et partager tout ça en même temps, enfin, du coup, tu. Non. Enfin, tu peux le faire, hein, mais après, du coup, c'est moins qualitatif. Tes rencontres avec les personnes, quoi.
Ouais, t'es pas à 100% là-dedans.
Ouais.
Ok.
Tu vas sur les salons, toi, ou pas du tout?
Pas du tout. Je t'ai dit, moi, je suis bien chez moi, quoi. J'ai beaucoup de mal à... Enfin, j'ai pas de mal à sortir, mais j'aime pas quand il y a du monde, de base. Donc, les salons, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ah, et moi, j'ai déménagé. Avant, j'étais à Paris, donc j'allais de temps en temps une demi-journée sur les salons qu'il y avait de couture. Mais depuis que j'ai déménagé, je t'avoue, prendre le train pour me faire un salon, c'est un peu l'angoisse, quoi. Je pense que je suis un peu agoraphobe, tu vois. Donc, dès qu'il y a trop de monde, je suis pas à l'aise.
Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. J'ai un peu. Enfin, moi, j'ai des journées comme ça où vraiment j'ai envie d'être. Je préfère être toute seule, être tranquille. Et d'autres moments où j'ai envie de travailler en équipe. Je suis contente d'avoir quand même les deux. C'est pas mal.
Ah non, mais c'est trop bien. Là, ce que tu as fait, trouver quelqu'un qui comprend ce que tu fais, parce que. C'est quand même, moi quand je parle de couture, les gens me regardent avec des yeux ronds, quoi. Ils comprennent pas l'idée. Et là, tu as trouvé quelqu'un qui comprend ce que tu fais, qui peut t'aider dans ton business et qui elle fait de la couture, j'imagine.
Ouais, mais alors ce qui est cool, c'est que du coup, elle a débuté la couture juste avant qu'on commence à travailler ensemble. Donc c'est hyper bien, justement, qu'elle soit débutante.
Enfin, surtout... Elle a un regard, du coup, hyper. Ouais. Des gens qui vont débuter et qui elle va poser les questions auxquelles toi, tu n'auras même pas pensé finalement.
Ouais, exactement. Et du coup, ça me permet que des fois, elle me dit ouais, alors ça, je comprends pas. Ou alors, elle me dit ah, peut-être que ça aurait été mieux de l'expliquer comme ça, parce que moi, je pense que j'aurais mieux compris plutôt comme ça que. Et ouais, ça me permet de penser à des choses que moi, j'aurais pas du tout pensé, parce que c'est pareil, des fois, elle me donne des idées de tutos, et je dis mais tu crois que les gens, enfin, pour moi, tu vois, tout le monde sait le faire. Et du coup, je me suis dit attends, ça va être intéressant, ce type de tuto pour les gens. Elle me dit non mais si, carrément. Elle me dit mais moi franchement, quand tu m'as appris le truc, c'était elle me dit ça m'a changé ma vie, hein. Je dis, ah bon, j'ai dit bon, ok, ouais.
Carrément,
on va faire ce tuto là. Et c'est vrai que ouais, quand t'as appris, que t'as baigné tout le temps dedans, c'est tellement un automatisme que tu te dis que les gens ils le savent, alors que pas forcément.
Non, c'est très très cool je vais la prendre pour les 4 jours qui restent, tant qu'elle est dispo.
T'inquiète, t'es pas la seule à avoir essayé de la recruter. Il y en a plusieurs. Hein. On va essayer de la recruter.
J'imagine. Si les gens qui travaillent bien, généralement, ils n'ont pas trop de mal à se faire une place. Hein.
Ouais, après, elle adore son métier d'à côté. Elle est assistante sociale. Et elle adore ce qu'elle fait aussi à côté. Et elle m'a dit non, elle préfère travailler finalement que pour moi. Mais moi, je lui avais dit, franchement, si tu veux travailler pour les autres, mais c'est sûr qu'elle pourrait avoir un temps complet. Hein. Y a le bazar d'Anne-Charlotte, par exemple, qui avait demandé. Il y a Vinnie aussi. qui lui avait demandé, il y en a plusieurs comme ça qui l'ont demandé, mais c'est vrai que aussi, je pense qu'aussi, je sais pas, on s'est vraiment trouvé parce qu'on s'entend hyper bien, j'ai hyper confiance en elle, même si ça peut arriver qu'elle fasse des erreurs, ça me dérange pas parce que je me dis, tu vois, c'est comme ça qu'aussi on apprend, et ouais, en fait, du coup, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Elle sait de ce que moi je souhaite et elle apporte toujours des bonnes idées aussi. Donc, c'est cool.
Carrément. Ouais. T'as vraiment de la chance. Moi, je cherche des gens pour m'encadrer, pour m'assister, mais c'est très, très compliqué.
Mais j'avais eu 2 personnes avant, donc j'avais. C'est pas moi qui avais demandé, c'est une personne qui a essayé de s'introduire et qui a essayé de.
Oula, quand ça commence comme ça, c'est jamais bon.
Qui a voulu essayer de prendre la place à vouloir faire des trucs et après me dire il faudrait maintenant me payer. Mais je lui dis oui, mais le truc, c'est que le problème, c'est que moi, je peux. Déjà, j'ai dit tu peux pas être déjà salarié parce que moi, je suis auto-entrepreneur. Donc après, j'ai dit tu peux, si tu veux être auto-entrepreneur, et à ce moment-là, moi, je te demande des services. Donc, mais elle, c'était compliqué de son côté parce qu'elle préférait rester au chômage parce qu'elle voulait faire une formation par la suite. Donc là, je lui ai dit du coup, j'ai stoppé le truc. J'ai dit non, moi, je préfère ne pas que tu viennes, tu m'aides pas, et que moi, du coup, je vais pas être redevable par rapport à ce que tu fais. Et en plus, c'était vraiment au tout début de mon activité, donc moi, j'avais pas encore les sous pour payer une personne en plus. Et après, j'ai demandé à ma cousine, mais ma cousine, du coup, très vite, elle a eu peur, elle s'est dit si. Bon, déjà, elle connaissait rien à la couture, mais elle a eu peur, ouais, très vite, de se dire tiens, si ça va pas, ça peut créer des histoires ou quoi. Donc, j'ai dit bah écoute.
Ouais, c'est comme travailler avec son conjoint ou sa partenaire, c'est toujours un peu. Si jamais il y a un problème, ça peut déteindre sur la famille et sur la vie privée, finalement.
Oui, bien sûr. Bah après, tu sais, là, c'est pas forcément Enfin, c'est un peu délicat aussi, parce que là, donc, Mathilde, elle travaille. Enfin, c'est son chéri, qui elle est liée avec. Ça va bientôt faire 20 ans, je crois. Je sais plus combien de temps ça fait qu'ils sont ensemble. Du coup, son chéri, c'est le meilleur ami de mon chéri. Donc,
c'est qu'on est quand même. Vous vous embrouillez. Il faut vraiment rester en bon terme, quoi.
C'est ça. Mais en fait, dès le départ, on s'est toujours dit. On se raconte les choses, tu vois, quand il y a un truc qui va pas, qu'elle, elle trouve qu'il y a un truc qui va pas, enfin, tu vois, on se dit les choses, et puis on n'est pas là pour se vexer. Si ça va pas, c'est que, enfin, du coup, on se raconte les choses, et puis, on est deux personnes qui sont assez faciles à vivre, elle est assistante sociale, donc elle a ce côté-là, un peu le tact avec les gens, et moi, le fait d'aller travailler dans l'animation et travailler aux côtés des enfants et tout ça, je pense j'ai aussi ce côté-là un peu. D'essayer d'analyser les choses et de pas du coup forcément s'énerver sur certains trucs.
Vous réglez les problèmes plutôt que de les laisser en suspens. C'est vrai que dans les entreprises il y a souvent des problèmes de communication. Là au moins ça vous parlez, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis enfin, imagine il y a un truc qui va pas, je vais pas lui dire non mais franchement là ce que tu as fait c'est nul. Non, en fait, du coup, je vais lui dire peut-être qu'on aurait dû faire ça différemment, tu vois. Je vais pas lui dire que c'est de sa faute ou elle va pas dire que c'est de ma faute. En fait, on se dit que quand on a fait le chose, du coup, on l'a validé à deux et on analyse, on dit tiens, on aurait dû le faire autrement et après, on se rend compte si c'est effectivement c'est de ma faute ou c'est la sienne. Mais tu vois, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Et je pense que ça aide, je pense aussi, tu vois, à éviter ce genre de conflit. Qui sera vraiment très constructif.
Oui, complètement. Ça bloque tout, au contraire.
Oui, c'est ça. Exactement.
J'ai mes questions dont je t'ai parlé au tout début.
Oui, alors, j'ai pas eu le temps de réfléchir du coup pendant la conversation.
Mais... Non, mais la première, franchement, ça va. C'est qu'est-ce que tu préfères en couture ?
Alors, ça dépend complètement. J'ai des moments où je vais. Là, je suis à trop à fond. Tu sais, quand j'ai des idées de patron. Alors là, je suis à fond dans le patronage, j'adore du coup créer le modèle. Et puis il y a des moments où je suis à fond, j'ai envie trop de faire que de la couture. Et du coup, ouais, ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre des moments. Il y a des moments où je vais en avoir marre de coudre, d'autres moments, le patronage, au bout d'un moment, enfin tu vois, si je suis obligée de refaire 15 000 fois la pièce, ça commence un peu à m'embêter. Donc ouais, je vais te dire que j'aime ça et après il va y avoir les illustrations aussi de temps en temps qui va pareil, je vais être à fond avoir envie de dessiner et d'autres fois où pareil quand je suis sur la fin d'un bouquin et qu'il me reste encore 15 illustrations.
J'en ai pas. Ce qui te saoule finalement c'est la répétition, quoi, c'est de refaire toujours, d'avoir l'impression de refaire toujours la même chose.
Ouais. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je ne te l'ai pas dit au début, mais au tout départ, quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais faire, quand je me suis dit, je vais me mettre à mon compte, j'avais pensé aussi à créer une collection de vêtements. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, non, en fait, Gaëlle, déjà, quand tu couds un vêtement, tu es hyper contente, mais là, quand tu te dis, il va falloir recoudre un deuxième.
Non, et puis si tu n'en fais que deux, tu ne vas pas en vivre. Hein.
Non, c'est ça. Et donc là, je me suis dit, ouais, en fait, j'aime bien créer des pièces, mais uniques. Donc je me suis dit la mini collection ce sera pas trop mon truc.
Et alors à l'inverse, alors bon, je pense qu'on y a répondu aussi, qu'est-ce qui te déplaît le plus en couture?
Voilà.
À part la répétition, il n'y a pas un processus qui si tu pouvais l'éviter ce serait tant mieux. Moi par exemple, recopier un patron c'est l'enfer pour moi. Devoir poser le papier, enfin la planche de patron par-dessus mon calque, recopier le truc sans me gourer, me rendre compte que c'est pas tout à fait. Enfin voilà, ça c'est vrai. Que la feuille glisse, ça c'est vraiment l'enfer. À titre perso.
Ouais, non, mais je vois très bien. Mais finalement, tu vois, moi c'est le truc complètement bête, mais c'est faire les canettes. Tu vois, j'aimerais toujours que j'ai des canettes de prêt tout le temps.
Ça c'est vraiment un petit problème, hein.
Ouais, mais c'est le truc, c'est que des fois, presque, ça pourrait me dire. Oh, il n'y a pas la canette de prête. Enfin, toi, genre, la machine, elle n'est pas prête pour coudre. Du coup, ça peut me bifurquer sur un autre projet. Du coup, je vais dire, oh, bah tiens, vas-y, je vais faire patronage, puis je ferai ça plus tard, toi. Alors que ça prend 5 secondes, hein, en vrai. mais ouais, ça peut me bloquer là-dessus, de, ouais, la canette. Tu te dis, oh, la machine, elle est déjà enfilée. Alors que pareil, pourtant, dans les cours, souvent, j'enfile les machines aux élèves. Enfin, ça prend 2 secondes. Mais ouais, je sais pas. Le fait que ce soit pas prêt à coudre, ça peut bloquer.
C'est drôle. En fait, il te faut un assistant ou une assistante machine, quoi. Quelqu'un qui va vraiment te présenter la machine prête à fonctionner, déjà branchée, la pédale juste sous le pied. T'as plus qu'à t'asseoir et vous.
Voilà, avec la bonne couleur déjà enfilée, c'est...
Parfait. Ça, c'est peut-être un futur métier, quoi. C'est un truc qu'on rencontre en usine, ça, non ? T'as jamais bossé en usine, mais...
Non, jamais.
J'ai l'impression qu'il y avait des mecs, ouais, la plupart du temps, des mécanos, quoi, qui venaient... je ne sais pas s'ils enfilaient la machine, remarque. Mais qui étaient là pour vérifier que les machines fonctionnent bien à chaque fois, quoi.
Oh oui, ça, je pense que ouais, ça doit être... Il doit y avoir des mécaniciens, ouais, pour vérifier si ça marche bien, ouais.
Moi, alors, attention, exclu. J'ai visité une ancienne usine abandonnée qui fabriquait des chaussettes à côté de Troyes.
Ouais.
Parfaitement illégalement, hein, ne faites pas ça chez vous. Et donc, je l'ai filmé et tout, on s'est fait choper par les flics, c'était génial. Et la vidéo, pour le moment, n'est pas sortie, je vais essayer de la faire sortir là, au bout de 2 ans, parce que je pense que j'aurai plus de problèmes de plainte, parce qu'il y a potentiellement une plainte qui peut me tomber dessus, pour ouais. Violation de propriété. Je ne sais pas si je fais bien d'en parler dans le... Bon, allez, c'est entre nous. Mais en gros, en visitant le truc, il y avait toutes... En fait, ils ont laissé toutes les machines sur place, au moment où ils ont fermé l'usine il y a une quinzaine d'années, je crois.
Ouais, okay.
Et il y avait une pièce à côté qui était vraiment dédiée aux mécanos, où tu avais des notes, tu avais des compartiments avec des trucs pour réparer les machines. C'était assez intéressant, quoi, de se rendre compte qu'il y avait donc j'imagine, des nanas qui faisaient les chaussettes, qui les cousaient, qui les assemblaient. Et ouais. À côté de ça, probablement des mecs qui étaient là pour réparer les machines, pour s'assurer que tout fonctionne bien et que la production ne s'arrête jamais, quoi. Voilà, c'était la parenthèse. Donc, ça existe.
Ouais, bah non, je me doute bien que, enfin, oui, qu'effectivement, il doit y avoir, forcément avoir quelqu'un qui s'occupe de cette partie-là pour le rendement, en fait.
Te faut un assistant canette.
Faudrait que j'éduque mon chat.
Est-ce que t'as des... Ce serait... Putain, si les chats étaient utiles, ce serait... Moi, j'en ai 2 à la maison, ce serait tellement bien. S'ils servaient à quelque chose.
C'est ça. Des fois, on espère, on rentre, on se dit peut-être ils ont fait le ménage.
Non. Ils ont mis leur poil partout. Et potentiellement, ils ont vomi.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a des difficultés aujourd'hui que tu rencontres dans ce que tu fais au quotidien ? Est-ce qu'en couture, parfois, tu as des blocages, des choses qui vont te poser problème ou même dans ton business ?
Bon, en couture, à part quand il faut découdre.
Ok.
après, au niveau business, je sais que moi... quand tu viens du salarié, le job il est là, il faut que tu le fasses et machin, enfin tout est indiqué, donc déjà il y a le côté organisation, des fois c'est compliqué pour moi parce que t'as personne pour te donner un coup de pied aux fesses pour te dire bon allez, aujourd'hui on fait si et ça et ça, et donc des fois ça peut être un peu embêtant. Et aussi, attends, il y avait un autre truc aussi que je me suis dit tout à l'heure. Redis-moi la question, c'est...
Est-ce qu'il y a des difficultés que tu rencontres ?
Oui, si, ouais, c'est de me mettre en avant aussi. Enfin, en gros, c'est la... C'est la
communication. Le personal branding.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est mettre en avant. Donc, j'ai commencé au fur et à mesure là, des années, je suis un peu plus à l'aise... là-dessus, mais voilà, faire de la promotion, parler de mes produits, c'était compliqué pour moi parce que j'ai l'impression de, enfin, un peu comme si je me vantais de quelque chose et ça me freinait au départ par rapport à ça. Même encore maintenant, tu vois, quand je fais une story et que je parle d'un produit, que je dis tiens, j'ai fait une promo sur ce produit-là. Du coup, je vais me freiner. Ça se trouve, je vais faire qu'une story, alors que la promo t'es à durer qu'une semaine, et je vais faire qu'une story dans la semaine. Alors que, en vrai, si tu veux vendre ton produit, si tu veux en communiquer, si tu veux présenter, ben, il faut en parler toute la semaine. Mais tu vois, j'ai un peu ce frein-là encore aujourd'hui, et parce que j'ai toujours peur d'embêter les gens avec ça. Alors qu'au final, tout le monde ne regarde pas tes stories, tout le monde ne regarde pas tes publications, tout le monde ne lit pas ta newsletter. Mais ouais, j'ai un peu ce problème-là. Je pense aussi à un manque peut-être de confiance en soi aussi. C'est peut-être pour ça. Toi, souvent, quand je vends un produit physique, chaque fois, je dis à Mathilde, non, mais ça ne va jamais se vendre. Ça ne va pas marcher. Je vois que c'est toujours là, alors qu'au final, bon, ça se vend très bien, les gens, ils sont contents. Ouais, j'ai toujours cette impréhension-là à me dire que ça se trouve, ce que j'ai fait, ce n'était pas top.
C'est un syndrome de l'imposteur, ça, ou pas?
Bah, peut-être, et peut-être aussi un côté un peu perfectionniste aussi. Je pense que j'ai toujours envie que ce soit toujours bien, voilà, que ce soit, qu'il y ait aussi un maximum, que les gens qui ont, quand ils aient un produit, ils en ont pour leur argent, il faut que ce soit le plus parfait possible. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu. Je me mets de la pression des fois, je pense, pour pas grand-chose, et que du coup, il faudrait que je sois un peu plus détendue par rapport à ça, je pense.
Est-ce que tu as déjà eu des échecs depuis que tu as commencé? Un truc auquel tu croyais et qui a floppé complètement, ou un truc que tu as essayé de faire et qui n'a jamais abouti?
Il y a déjà créé des patrons, mais que je n'ai jamais sorti parce que, au final, après plusieurs essais, je n'arrivais pas à finaliser le truc, et je me suis dit, bon, pour l'instant, ce n'est pas sortable, je le mets de côté. Un jour, je me remettrai dedans et je pourrais le sortir. C'est déjà arrivé ça. Après, en fait, quand je me trompe, je le vis pas comme un échec. Je me dis toujours, ça va m'aider. Du coup, en fait, j'apprends de la chose et je vais me dire, je vais rebondir et je vais me dire, ça va m'aider pour reconstruire un truc derrière. J'ai toujours rebondi. En fait, à chaque fois, je suis face à un mur. Toujours, en fait, je trouve toujours une solution pour franchir ce mur. Je me dis pas, ah mince, ah oui, je suis face à un mur, je vais pas pouvoir continuer. Je suis toujours partie là-dessus, en fait.
En fait, tes blocages, ça te sert de bifurcation pour mieux faire les choses, quoi.
Ouais, exactement.
Ou les faire différemment.
Ouais.
La question piège. Quelle est ta meilleure astuce en couture?
Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est celle que je dis toujours à mes élèves. Parce que bon, souvent, la difficulté, c'est de bien coudre droit.
Ouais.
Et en fait, je compare toujours quand on coud à la machine. Donc, tu sais, tu as les petites rainures là, au niveau de ta machine. Et je compare toujours ça comme quand tu fais du vélo ou que tu conduis une voiture. Je leur dis toujours, voilà, si donc les mains, c'est comme tes mains sur le guidon ou sur le volant. Donc, c'est elles qui vont te guider à gauche et à droite. Et après, c'est toi qui vas te fixer un point repère pour savoir où tu vas. Et c'est parce que dès que tu commences à regarder l'aiguille, regarder les mains, tu regardes à gauche, à droite, forcément, c'est comme la voiture et le vélo, et ça part à gauche, à droite, ça ne va plus du tout dans la direction que tu t'es donné au départ. Donc, je leur donne souvent cette astuce-là. Et même les personnes qui n'ont jamais cousu de leur vie et qui coupent pour la première fois, et ils arrivent tout de suite à coudre droit, assez droit, bien sûr, c'est pas au millimètre près, mais c'est quand même assez régulier dès le départ. Donc, voilà, je sais pas, je me dis souvent, quand j'explique, du coup, c'est un peu parlant pour le vélo ou la voiture, et je me dis, ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on regarde au loin, il ne faut pas que je regarde autre chose que mon repère.
Donc, fixer un repère et s'y tenir, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, fixer la bordure et le repère sur laquelle la bordure doit être, et elle doit rester sur ce repère-là.
Parfait. J'ai beaucoup de gens qui me posent la question, ouais, de savoir comment coudre droit ou comment couper droit aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette question.
En fait, couper droit, c'est la même chose. Il faut que tu te fixes ta ligne de qu'est-ce que tu dois couper. Et en fait, automatiquement, c'est le cerveau, en fait, qui fait le travail à ta place. En fait, quand tu te fixes un objectif, en gros, du coup, tu donnes l'ordre au cerveau, tu dis « je veux que ça soit comme ça ». Et en fait, automatiquement, tes mains, elles vont tourner à gauche et à droite pour que ça fasse... ce que tu as donné l'ordre à ton cerveau, en fait.
Comment tu te vois, où tu te vois dans 5 ans?
Je me suis posé la question. Enfin, on a parlé avec mon chéri il n'y a pas longtemps, mais...
Ah bah parfait.
Je ne vais pas réussir à répondre. Mais en fait, j'aimerais bien, ouais, effectivement, que peut-être un Gaïsou grossisse plus. J'aimerais, peut-être que du coup, Mathilde soit un peu plus présente. Ça serait chouette. Et peut-être faire d'autres encore de nouveaux projets, des choses que je n'ai pas encore faites. Ça pourrait être sympa. D'ailleurs, bah, dans un des projets que je ne t'ai pas dit aussi, du coup, bah, l'illustration, ça m'a amené aussi à créer des motifs pour du tissu. Donc, j'ai sorti une collection là, avec Vini il n'y a pas longtemps.
Ah, c'est ça que je voyais. Je regardais tes photos sur Instagram et je te voyais en photo avec elle qui tenait des rouleaux. Enfin, ouais. Pas des rouleaux,
Ouais.
C'est toi qui a designé tout ça.
Ouais, exactement. Donc il y a des dessins que c'est moi qui avait dessiné, je lui ai proposé, donc qui s'en va aider avec son mari. Et après il y avait d'autres dessins où c'est elle qui m'a dit voilà bah, j'aimerais ça. Elle m'avait parlé, elle m'a dit bon par exemple bah, son patron Sac Georges, tu vois qui est.
Ah, c'est the patron.
Ouais, c'est son l'air. Et donc, elle m'avait dit, ouais, je rêverais d'avoir le motif de Sac Georges sur un tissu. Voilà, je lui ai fait une proposition, que ça lui a beaucoup plu. Et après, elle m'avait demandé aussi, elle me dit, j'aimerais bien avoir une marinière avec une machine à coudre et un électrocardiogramme. Tu sais, parce que souvent, des fois, tu as ça, mais avec le petit cœur. Et du coup, elle voulait remplacer par une machine à coudre. Et donc, elle m'avait demandé de dessiner ça aussi. Ça faisait partie des motifs qu'elle m'avait demandé. Donc, voilà, du coup, c'était encore, pareil, une nouvelle expérience à faire avec Gay & Sue, quoi. Donc, c'est chouette. Voilà, c'est un peu...
Du coup, tu as bien éludé la question. Hein. Dans 5 ans, oui, c'est pas... Tu continues à faire ce que tu fais, mais tu t'imagines pas...
ce que je te disais, que Gay & Sue grossisse un peu plus, donc sortir un peu plus de patron. Ce que j'aimerais bien aussi, peut-être pouvoir déléguer un peu plus... peut-être m'accorder un peu plus de temps de vacances parce que je n'en accorde pas beaucoup. Je travaille souvent quand même énormément. Enfin, moi, le lundi ou le dimanche ou le mercredi, c'est pareil pour moi. Les jours fériés aussi. Ça, j'aimerais bien que ça change un petit peu. Puis continuer. Je commence une collection de bouquins. Donc voilà, donc j'espère que ça va marcher et que. Pouvoir terminer complètement la collection de bouquins d'ici 5 ans.
Et du coup, c'est de la BD ou c'est de la couture ?
Non, ce sera... du coup, ce sera en exclusif. Là, j'en ai parlé à 2-3 personnes qui m'ont posé la question. Mais ce sera un bouquin sur... j'ai fait des illustrations sur le patronage.
OK.
Où je donne des astuces de modification de patron pour l'adapter donc, à sa morphologie. Ou par exemple, imagine, je ne sais pas, tu achètes un patron d'un sweat et finalement les manches raglantes, tu ne veux pas les manches raglantes, tu veux, je sais pas, une manche chauve-souris, par exemple. Du coup, je te montre comment modifier du coup, la manche pour la transformer. Voilà, avec la manche que tu as, ça t'évite de racheter peut-être un autre patron et faire un mix des deux en sachant que le patronage, ça se trouve, le buste, bah, ça ne va pas du tout avec l'autre buste de l'autre patron. Donc voilà, donc c'est un peu cette thématique-là qui est prévue pour 2023.
Trop bien. Et ce sera toujours avec Créapassion ?
Ouais, ce sera toujours avec Créapassion. Je pense que les illustrations, après, enfin, normalement, tu n'es pas censé, tu n'es pas obligé d'être fidèle avec ta maison d'édition, mais je pense que. Pour tout ce qui est illustration, pour ce style-là, en tout cas, qui sera en rapport avec la BD, je pense que je resterai avec Créapassion. Après, pour d'autres projets couture, je suis ouverte avec d'autres maisons d'édition. Donc voilà.
Parfait. Merci Gaëlle.
Bah, avec plaisir.
Merci à toutes et tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Je vois hein, le temps en direct, je sais qu'on est à 1h15 d'écoute, c'est énorme, disons-le, c'est beaucoup. Merci infiniment, je vous mets dans les notes de l'épisode tous les liens pour retrouver les réseaux sociaux de Gaëlle, son site internet, pour que vous ne manquiez rien à son actualité et puis surtout pour que vous alliez voir ce qu'elle fait. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast. Je vous rappelle que ça sort tous les samedis à 7h du matin. Enfin, tous les samedis, normalement, sauf quand je chope le Covid, quoi. Mais voilà, grosso modo, c'est censé être régulier et sortir le samedi matin. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une petite notification lorsqu'un nouvel épisode apparaît. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne semaine, beaucoup de couture. Bye bye!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.